Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse a obtenu d'Agamemnon la libération de Briséis. Celle-ci découvre alors qu'Achille ne l'a pas trahi. Il l'aime toujours et elle accepte de le retrouver. Mais Ulysse n'a pas réussi à persuader Achille de revenir au combat. Il s'est alors lancé dans une opération très dangereuse au milieu des lignes ennemies, en compagnie de Palamède. Celui-ci a trahi la parole d'Ulysse en assassinant Dolon, un jeune Troyen à qui Ulysse avait promis la vie sauve. Lorsque Aurore aux doigts de rose se lève, le rire et la vie courent sur les remparts de Troie. C'est un petit garçon d'à peine un an qui pousse des cris joyeux, tout en expérimentant ses premiers pas. Oh, comme il est fier de trouver son équilibre, ce bébé-là. On voit son corps potelé, chancelé par moments. Il tombe, mais il se relève aussitôt, et il repart à la conquête du monde. Trois femmes l'observent. Au frémissement tendu de l'une, à la manière dont ses bras partent tout seuls vers l'enfant comme des barrières protectrices, on devine tout de suite que c'est sa mère. Des tresses noires, remontées harmonieusement sur la tête, encadrent son visage. Elle n'a qu'une envie, c'est de se précipiter vers le petit garçon et de le remettre à l'abri au creux de ses bras. Mais la fierté aussi se lit sur son visage. « Laisse-le faire, Andromaque, laisse-le !» Il faut bien qu'il apprenne. Celle qui vient de parler est la plus âgée des trois. Elle a un beau visage, déjà sillonné de quelques rides, et un corps légèrement voûté. « Oui, Hécube, » répond Andromaque. « J'essaie, mais c'est plus fort que moi, ça part de mes entrailles. » En entendant ces mots, la troisième femme a tressailli. Son regard, qui suit les efforts du petit garçon, se détache soudain et s'envole au-dessus des remparts, loin vers la mer. C'est la plus belle des trois femmes. Enveloppée de voiles bleu turquoise, elle a l'air d'une déesse. Elle ne dit rien, mais sa main se crispe sur sa robe. Andromaque le remarque aussitôt. « Oh, excuse-moi, ma chère Hélène, je ne voulais pas te blesser. » Hélène lui adresse un sourire de reconnaissance et murmure, les yeux soudain embués. « Même une mère indigne comme moi, qui quitte son enfant alors qu'il n'a pas 10 ans, reste une mère. Hermione a laissé ce vide dans mon ventre qui ne sera jamais comblé. » « Je suis inquiète, » dit Hécube pour détourner le cours de la conversation. « Nos hommes se replient pour la première fois depuis des jours. On dit que le héros des Grecs, Achille, est revenu au combat. » À cet instant, un homme à la stature imposante surgit en haut des remparts. Il s'approche à grandes enjambées. Sous son armure de combat, Andromaque reconnaît son mari, Hector. Et voilà que le petit garçon heurte les jambes de l'homme. « Astyanax, mon bébé, viens dans mes bras !» s'exclame Hector. Mais Astyanax se met à pleurer et se détourne de son père. Il fixe, terrorisé, la grande queue de cheval qui s'agite au sommet de son casque. Alors Hector, qui dans sa hâte à venir saluer les siens n'a pas pris le temps d'ôter son armure, retire son casque et le dépose à terre. Cette fois, Astyanax reconnaît son père et ses pleurs se calment. Il se jette dans ses bras. Portant son fils, Hector se tourne alors vers les femmes, comme il les trouve belles. Il lit dans leurs yeux autant d'amour pour lui que d'admiration. « Mère !» dit-il en s'adressant respectueusement à Hécube en premier. « Je suis venu te saluer une dernière fois. »« Pourquoi une dernière fois ?» s'exclame Andromaque. « Je sais, » dit Hécube d'un ton grave. « Tu pars affronter Achille, qui est revenu sur le champ de bataille, et l'un de vous deux n'en sortira pas vivant. Que les dieux te protègent, mon fils. » S'adressant alors à Hélène, Hector dit « « Je suis aussi venu chercher Paris. Il doit revenir au combat. Il ne peut pas rester caché dans tes draps. Les hommes ne comprennent pas. » Hélène lui répond d'un ton las. « Je m'en doutais. Aphrodite ne peut pas nous protéger éternellement. Fais attention à toi, Hector. » Puis elle tourne les talons, suivie par Hécube, qui préfère laisser Andromaque seul avec Hector et Astyanax.
Des larmes coulent sur les joues d'Andromaque. Oh, je t'en supplie, je t'en conjure, mon doux amour, n'y va pas, n'y retourne pas, je ne veux pas que tu meures.
Voyant sa mère en pleurs, Astyanax se remet à fondre en larmes. Alors, pour le consoler, son père lui tend son casque. Le petit joue aussitôt avec la queue de cheval.
Hector est alors secoué par un immense rire en voyant son fils passer instantanément des larmes au jeu. Et Andromaque, gagnée elle aussi, rit à travers ses larmes, serrée sur la poitrine de son mari.
« J'essaierai de te revenir vivant, ma douce amie, » murmure Hector, « mais je ne peux pas renoncer. Je dois y aller, c'est mon devoir. S'il m'arrive quelque chose, sache que je vous aime plus que tout, que j'abomine cette guerre. » Et prends bien soin de notre fils, surtout. »
Puis, après les avoir tous deux serrés dans ses bras, Hector remet son casque et repart vers son destin. Depuis qu'il a réussi son exploit nocturne à travers les lignes ennemies, Ulysse n'est plus tout à fait le même. Les combats se sont intensifiés, les affrontements succèdent aux affrontements. L'odeur de la mort empeste l'air. Ulysse mène vaillamment ses hommes à la bataille, mais l'horreur s'est infiltrée en lui. La violence de cette guerre le dévore. Une nuit, des images sanglantes se mettent à danser sauvagement dans ses yeux. De longs gémissements lui échappent. Il voit le couteau de Palamède qui tranche la gorge du jeune Dolon. Il entend le martèlement des sabots, des chevaux de Rhésos. Tout se brouille, tout s'accélère. Il voit les hautes flammes d'un navire que les Troyens ont réussi à atteindre pour y mettre le feu. Il voit l'acharnement de Patrocle au combat, revêtu de l'armure d'Achille. Patrocle se battant comme un lion. Ulysse entend le choc métallique des armes, le halètement des hommes, au corps à corps. Il voit, il revoit le sang qui coule, des flots de sang. Il gémit de plus en plus fort. Une main douce lui éponge le front. C'est Oumariaka qui veille à son chevet. Ulysse a la fièvre. Ulysse revit cette horrible boucherie. Il voit la lance de Patrocle frapper. Il voit les corps tomber. Il entend des cris, des hurlements. D'autres images encore le hantent. Hector surgissant dans la poussière du combat, son épée entrechoquant celle de Patrocle, qu'il prend pour Achille revenu se battre. Et les Grecs, galvanisés, croyant eux aussi au retour d'Achille à leur côté, s'acharnant contre les Troyens. Maintenant, Ulysse crie. Il ne voit plus que du rouge, du rouge. Oumariaka tente de lui glisser entre les lèvres quelques gouttes d'une décoction de plante, de celle qui soigne les brûlures du cœur et du corps. Mais les images du champ de bataille continuent de ravager Ulysse, malade. Dans la mêlée, il revoit soudain Patrocle s'effondrer sous les coups d'Hector. Le Troyen saisir le bouclier d'Achille, arracher le casque et découvrir alors qu'il n'a pas tué Achille, mais son meilleur ami. Tout se brouille à nouveau. Des corps par terre, des cris toujours et cette image obsédante. Le poignard de Palamède qui plonge dans la gorge du jeune Dolon. Ulysse hurle. Il ne dort pas, il ne rêve pas, il est habité par cette guerre, il est comme possédé. D'autres images soudain. Achille qui vient d'apprendre la mort de Patrocle et qui surgit dans la bataille. Enfin, Achille, ivre de douleur d'avoir perdu son frère, son ami, son âme, Patrocle, son bien-aimé. Achille est debout sur son char, les sabots de ses chevaux piétinent les ennemis. La lame de son épée tourbillonne, s'abat, se relève, tourbillonne encore, frappe et refrappe. On la dirait animée d'une vie autonome. Les pleurs et les cris d'Achille, l'éclat aveuglant de sa lame sous le soleil, ses cheveux roux qui flamboient sous le casque. Sur son lit de paille, Ulysse se tord de douleur. Patiemment, Oumariaka lui humecte le front. Elle murmure un chant rauque et plaintif. Un chant pour éloigner le mal, un chant pour repousser les cauchemars qui hantent le roi d'Ithaque. Mais Ulysse continue à délirer, toujours ces rivières de sang qu'il sent couler sur son visage. Il essaye de s'essuyer, ses bras s'agitent en tous sens, le poignard de Palamède plonge et replonge, le bouclier d'Achille l'aveugle, sa main frappe, frappe. Et maintenant, Il revoit Hector s'effondrer dans la poussière, mortellement touché par Achille.
Ulysse pousse un nouveau cri. Mariaca chante plus fort pour chasser les esprits malins.
Le casque d'Hector a roulé sur le sol. La queue de cheval ne s'agite plus, piétinée par la marée des hommes qui continuent à se battre.
Oui, Ulysse a tenté de retirer le cadavre du héros troyen de la cohue. Il a pensé à la douleur d'Andromaque, à celle du petit Astyanax. Même s'il était son ennemi, Hector méritait les honneurs dus aux morts. Mais voilà qu'Achille a bondi. Ulysse revoit Achille lui arracher le cadavre, l'attacher à son char et le traîner sur plusieurs mètres en poussant des cris qui n'ont plus rien d'humain, des hurlements de loups déchaînés.
Il résonne dans la tête d'Ulysse.
Vengeance, vengeance.
Des images, encore. Achille criant, Achille pleurant, Achille devenu fou.
Sur son lit, Ulysse pleure, lui aussi, sur la raison perdue, sur la folie des hommes.
Longtemps, Ulysse lutte contre la fièvre qui le ravage. À l'aube, enfin, lorsque Aurore aux doigts de rose se lève, le sang cesse de couler devant ses yeux, les cris s'éloignent de ses oreilles, la sueur sèche sur son front, sa respiration précipitée se calme, et le sommeil le gagne enfin. Mariaca se penche sur lui et lui chuchote quelques mots. Puis elle se relève et quitte la tente. Ulysse est sauvé. Elle sait bien qu'il fera tout désormais, tout pour que les Grecs soient victorieux, que cette guerre terrible se finisse au plus vite.
Ulysse ouvre les yeux. Il aperçoit la jupe noire de la vieille femme qui s'éloigne et il sourit. Il se sent renaître. Il vient d'avoir une idée qui va tout faire basculer.
Chaque fois que le soleil se lève, Ulysse est frappé par la beauté de la mer. Ce matin-là, il fait le tour de son navire, tiré à sec sur le sable. Il lui caresse le flanc.
« Bientôt, tu vas me ramener chez moi, » lui dit-il. Son regard se tourne vers les majestueux remparts de Troie. « Bientôt, tu seras à nous, et bientôt, tout sera fini, » murmure-t-il encore. Mais d'abord, je dois tout faire pour que le corps du valeureux Hector puisse être rendu au sien.
Tout semble encore endormi dans le campement d'Achille lorsque Ulysse s'approche de sa tente. Il aperçoit la belle Briséis déjà levée, qui part vers le puits, emportant avec elle des linges dans un panier. Elle lui adresse un petit signe de la main et elle poursuit son chemin. Ulysse s'attarde un instant à la regarder marcher. Son pied léger se pose à peine sur le sol. Elle semble danser en avançant.
« Comme je comprends Achille, » se dit Ulysse.
Il n'est plus qu'à quelques pas de la tente d'Achille quand un bruit de conversation lui parvient. Il reconnaît la voix du héros. Un vieil homme s'adresse à lui.
« Imagine ton père, Achille. Imagine sa douleur si tu venais à mourir au combat. »
Achille l'interrompt. « Je vais mourir au combat. Tu sais bien que mon destin est de mourir sous les remparts de Troie. » Le vieil homme poursuit comme s'il n'avait pas entendu.
« Ton père, désespéré par ta mort, voudra pouvoir pleurer sur ton corps et te rendre les derniers hommages, n'est-ce pas ?»
Un silence s'installe.
« Rends-moi le corps de mon fils, ô grand Achille, je t'en supplie, que je puisse le pleurer et l'honorer. »
Ulysse est stupéfait. Il vient de comprendre. C'est Priam, le vieux roi de Troie, qui a osé se faufiler jusqu'à la tente d'Achille pour réclamer le corps d'Hector.
Ulysse ne bouge pas. Par une déchirure de la tente, il glisse un œil pour voir la réaction d'Achille.
Le vieil homme lui a saisi les mains et il les porte à ses lèvres.
Achille semble bouleversé par ce geste. « Ta démarche me touche, noble vieillard. Tu as pris tous les risques en venant au cœur du campement des Grecs, toi, le roi de Troie. Je comprends ta douleur. J'ai eu besoin, moi aussi, de pleurer sur le corps de Patrocle. Je viens juste de le conduire au bûcher. » Sa voix se brise et il fond en larmes.
Ulysse, ému, voit alors Achille relever Priam, prosterné à ses genoux, et tous deux pleurer dans les bras l'un de l'autre. Puis Achille indique d'un geste la table à laquelle il était assis lorsque Priam est entré. « J'allais prendre un repas, le premier depuis la mort de Patrocle. Je te prie de le partager avec moi. Ensuite, nous rendrons ensemble les honneurs au corps d'Hector. » Priam relève la tête. Le voile de douleur qui obscurcissait ses yeux semble se dissiper. Il tremble. Il n'est pas sûr d'avoir bien compris. Achille continue. « Je te demande de me pardonner ma barbarie. J'étais fou de douleur. J'étais aveuglé par ma souffrance. Je n'aurais pas dû maltraiter ainsi le corps de ton fils. Je vais te le rendre. Nous le laverons ensemble. Tu pourras l'emporter à Troie. Nous ferons une trêve pendant 9 jours pour te permettre de lui rendre les honneurs du bûcher. Viens manger avec moi, père endeuillé. » Cette fois, Priam verse des larmes de joie. Il remercie Achille et accepte son invitation. Ulysse, réconforté de voir que l'âme noble d'Achille a repris le dessus, s'éloigne sur la pointe des pieds. Une chouette, perchée non loin de là, s'envole et file jusqu'à l'Olympe. Athéna, car c'est elle bien entendu, arrive à l'assemblée des dieux pour calmer l'irritation de Zeus. En effet, le dieu des dieux est indigné par le sort qu'Achille a réservé au corps d'Hector, et il s'apprête à se ranger du côté des Troyens. Apollon, qui a juré la perte des Grecs, s'entretient avec lui. « Oh Zeus, mon père !» s'écrie Athéna, encore essoufflée. « Tout est rentré dans l'ordre !» Achille regrette son sacrilège. Il va rendre le corps d'Hector à Priam. « Ah, très bien !» répond Zeus avec empressement. Ah, « Je ne me mêle plus de rien, alors. Et vous seriez bien sage d'en faire autant. » Devant le visage soulagé de Zeus, Apollon ne cache pas un mouvement de colère. Il espérait bien faire basculer la guerre du côté de ses protégés grâce à l'aide de son père. « Tu seras toujours la préférée de papa, » gronde-t-il à l'intention d'Athéna. « Mais tu ne perds rien pour attendre. »